Reportages, débats, interviews, le magazine du samedi, le rendez-vous hebdomadaire de la rédaction de Cocktail FM, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Émilie Michel.
Bonjour Jean-Christophe Givor.
Ce matin, le magazine de la rédaction sera consacré, bien entendu, au 18e Festival International du Film Fantastique de Gérard May, et c'est l'occasion pour la rédaction de Cocktail FM de faire un peu connaissance avec les personnalités présentes, bien sûr, les membres du jury long métrage qui sont parfois des personnalités atypiques du genre fantastique, à l'image de Clovis Cornillac avec qui nous avons une assez longue discussion. Et bien sûr, il a été question de cinéma, mais surtout de ses débuts dans le cinéma. Et pour en parler, nous avions demandé du renfort, notamment à Jean-Pascal Le Voirin, l'un des deux messieurs cinéma de Cocktail FM. C'est parti.
Quand je suis parti de chez moi à 14 ans pour travailler, je me disais qu'il y avait de grandes chances quand même que je choisissais un métier qui était en marge de la société. Il s'est avéré que depuis les années 80, les choses ont changé et qu'aujourd'hui, la société est tellement difficile que finalement, d'être intermittent du spectacle, il y a un jackpot possible. C'est-à-dire que c'est devenu un métier de réussite potentiel comme le sport. Ce qui n'était pas du tout le cas, moi, quand j'ai commencé. C'est-à-dire que tous les parents disaient aux enfants, faites jamais ça. Soit ingénieur, soit... aujourd'hui, il n'y a plus de boulot. Donc,
votre démarrage concrètement au cinéma, c'est quoi ?
C'est hors la loi. C'est 83 ou 84. Et une chance inouïe. J'ai été chopé dans la rue par Dominique Besnéard, qui était casting à l'époque. Et il cherchait en fait des voyous, parce que c'était un film sur une bande de voyous, tout ça, qui était dans un centre de redressement. Et du coup, il cherchait un peu partout. Le casting a duré un an. Le tournage a été dément parce que c'est évidemment mon premier long métrage. C'était le budget le plus gros du cinéma français à l'époque. Il n'y avait pas une vedette, il n'y avait que des petits voyous. Ça a été un cauchemar pour eux parce que évidemment, même si on était très gentils, bah on était cons quand même. Donc les flics tous les jours sur le tournage, tous les soirs en boîte, braquant les hôtels, enfin chaud quoi. Mais un souvenir incroyable parce que des cascades, parce que la nature, parce que 4 mois et demi, 5 mois de tournage, préparation de 2 mois... à cheval, dans l'eau, tout ça et tout, donc c'était démentiel pour faire un film qui n'a pas marché. Qui a coûté cher d'ailleurs à Robin Davis, parce que le pauvre derrière, on lui a plus fait confiance. Pour dire que ce métier est quand même cruel, le mec fait la guerre des polices, fait j'ai épousé une ombre, derrière il fait hors la loi, et après l'échec dans la loi, on lui dit bah
c'est quoi le film fantastique de chevet de Clovis Cornillac?
Je pense qu'il y a des chefs-d'œuvre de toute façon dans le fantastique. Je pense à Shining, je pense à Blade Runner, je pense à... Psychose, c'est pas du fantastique parce que c'est plus dans du thriller, mais moi ça m'avait terrorisé comme un film d'horreur. Après, il y a des films plus modernes que je trouve absolument magnifiques, Morse par exemple, qui est un film que je trouve, mais je m'en fous qu'il soit fantastique ou pas, quoi. C'est-à-dire, je me dis juste, c'est des grands, grands films. Le fantastique a cette force-là qu'il est mondial. J'ai fait un film par exemple qui s'appelle Eden Log. C'était un film fantastique que j'ai coproduit, dans lequel j'ai joué avec un réalisateur extrêmement doué qui s'appelle Franck Vestiel. Et là, j'ai monté une boîte de production avec lui pour faire ses films à lui, où je ne serais pas forcément dedans, mais où je me dis qu'il faut aller chercher ce public mondial. C'est-à-dire que nous, Eden Log, par exemple, en France, a été sorti dans une poubelle. En revanche, c'est un des films les plus vendus dans le monde. Donc tu dis qu'il y a un vrai potentiel d'une clientèle mondiale par rapport à ça. Et parce que c'est un langage commun, c'est comme Internet. C'est des gens qui parlent, que tu sois d'un côté ou de l'autre du monde, tu te parles dans la seconde. C'est un langage universel, le fantastique. Donc je pense qu'il faut travailler autrement. En revanche, c'est-à-dire que tu ne peux plus produire pareil, il faut chercher, il faut réfléchir, il faut avoir des idées. Quoi. Donc laissons ces artistes faire des choses, aidons-les à faire des choses, et puis après on verra quoi, si ça peut intéresser d'autres gens. Mais en France, on a du mal parce que la niche est trop petite et en plus on n'est pas aidé parce que les distributeurs ne sont pas fans absolument de ce type de film et parce qu'il n'y a pas un marché très grand. Je me souviens, on avait fait Maléfique par exemple, on avait eu un prix ici à Gérard May. Le film il a fait 100 000, c'était considéré comme un succès quoi. Et donc ça veut dire que si tu fais 100 000 et que derrière tu vas vendre 20 000 DVD, tu fais comment pour le produire le film au bout d'un moment? Le marché il est mondial, le seul moyen c'est qu'en revanche, dans pratiquement tous les pays du monde, tu vas avoir 200 000 aficionados. Donc si eux, ils viennent dans le monde entier, ton film, il est possible. Donc il faut arriver à trouver une manière de produire et un marché qui soit mondial. Je crois que c'est possible, avec les supports aujourd'hui qu'il y a, je pense que c'est possible, mais c'est du travail.
Et ce marché mondial profite à des pays émergents dans l'industrie du cinéma.
À l'image du Maroc, car un premier film marocain a été présenté cette année au festival de Gérardmer. Il s'agit de Mirage.
Un film de Tahal Selami, jeune réalisateur marocain que nous avons rencontré.
Alors le Moyen-Orient serait-il la Mecque du nouveau cinéma de genre? Question que nous lui avons posée.
L'émergence d'une industrie qui commence à se développer au Maroc, une envie de cinéma un peu différent de l'image qu'on a du cinéma marocain, maghrébin, arabe de façon plus générale, d'aller vers le monde entier, quoi, parce que je trouve que c'est un film universel qui peut parler à tout le monde, où les personnages ont des problématiques, certes, qui touchent de base à la culture, mais qui répondent aussi à des problématiques que tout le monde peut ressentir dans le monde, quoi.
Le début du film, donc une multinationale qui s'installe, sujet d'actualité s'il en est au Maroc, le recrutement, alors là encore un autre sujet d'actualité, et bon, ma foi, recrutement pas cool, hein. On a lâché les requins dans le désert, là, quelque part. Y a-t-il aussi une volonté d'être un petit peu politiquement incorrect?
Bah écoutez, moi je pense que le support du cinéma fantastique est peut-être l'un des meilleurs cinémas qui puisse véhiculer en fait des choses, pas dans un cinéma d'auteur qui s'assume où on va brandir haut et fort nos intentions, mais on est plus dans un divertissement, une histoire qu'on raconte, et que derrière le spectateur digère en fait des intentions ou des idées qu'on a envie de faire passer. Voilà, moi c'est ma forme un peu idéale de cinéma de façon générale.
Mais l'émergence de ce cinéma au Maroc, c'est aussi celle des acteurs marocains.
Karim Saïdi, le rôle de Hicham, un boxeur déchu dans le film.
Aïssam Bouali, le rôle de Saïd dans Mirage, l'un des 5 rôles principaux.
Qu'est-ce qui se passe au Maroc aujourd'hui?
En pleine expansion. Moi en tant qu'acteur, j'ai beaucoup de travail, plus qu'ici en tout cas. Un terrain de jeu magnifique le Maroc. Et je vous dis, les multinationales s'installent, tout le matériel cinématographique y existe. Le réalisateur aujourd'hui, il vient avec son chef opérateur et son acteur principal et il tourne au Maroc, quoi. Et c'est un pays où géographiquement, il y a les 4 saisons toute l'année, déjà. Donc, et très prisé pour sa lumière, le Maroc. C'est pour ça que c'est vraiment... moi, j'ai tourné dans des films italiens, allemands, anglais, au Maroc.
Les grands classiques ont été tournés là-bas, hein, Gladiateur et compagnie. On peut même revenir...
La colline à des yeux, Ridley Scott, il y est souvent, quoi. Green Zone, le film avec Assyriana, il y en a un paquet.
Sans même parler cinéma marocain, etc., il y a une chose qui est très simple, on a Gérardmer. Ça fait 18 ans que ce festival existe, c'est la première fois qu'il y a un film marocain. Ouais. Et je pense que ça résume, sans entrer dans des débats, ça en dit long, donc il y a vraiment un changement. Et déjà que c'était une fierté pour nous d'être au festival de Marrakech, représentant le film marocain en compétition, mais en plus d'être à Gérardmer, mais c'est le festival dont tout môme passionné rêve d'être. C'est même mieux que Cannes, c'est même mieux que... Parce que voilà, ça parle cinéma ici, il y a vraiment des passionnés, il y a des échanges avec les gens.
Hey, now, take your pills and hey, now, make your breakfast. Hey, now, comb your hair and off to work. Crash, land, no illusions, no collision, no intrusion, my imagination run away. I know, I know, I know what I am chasing. I know, I know, I know that this is changing me. I am flying on a star into a meteor tonight. I am flying on a star. I know what I am chasing.
magazine du samedi sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Il a été Robin des Bois, non pas le rôle, mais la troupe. Maurice Barthélémy a cultivé et cultive encore l'humour par l'absurde.
Mais surprise, c'est également un adepte de cinéma fantastique.
C'est un cinéma qui, moi, m'a toujours fait vibrer. Il se trouve que je suis très friand du cinéma des années 70 et que le cinéma fantastique est un genre majeur à cette époque-là. Et du coup, que ce soit Friedkin, que ce soit De Palma, Romero, Dante, Carpenter, Cronenberg, voilà, tous ces réalisateurs-là, j'ai vu quasiment tous leurs films à l'époque. Et je me suis un petit peu arrêté dans les années 90 parce qu'il fallait un tout petit peu souffler. Ça faisait beaucoup de morts au bout d'un moment. Et puis je m'y suis remis là récemment, grâce à la VOD. Et du coup, je retrouve le plaisir de frissonner, non plus dans une salle, mais dans mon lit.
On vous connaît finalement dans un registre d'un humour par l'absurde. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce rapprochement avec le fantastique qu'il a et le est aussi une forme d'absurde.
Et c'est un public qui est assez proche. D'ailleurs, je le ressens quand je rentre dans la salle et que j'entends deux, trois geeks qui me font « Ah ouais, 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 ouais !» parce qu'ils me citent des trucs que j'ai pu faire. Et oui, vous avez raison, ce sont des genres qui sont assez proches parce que dans le cinéma fantastique, comme dans l'humour absurde, on utilise des chemins qui ne sont pas les voies royales, ce sont des chemins parallèles. Et c'est un peu le point commun entre ces deux genres-là. Et généralement, c'est un peu le même public, parce que c'est un public qui est friand du cinéma particulier et du cinéma un peu tordu. Moi, j'estime que je fais un cinéma tordu. Alors, il y a moins d'hémoglobine, mais je tords un peu l'humour, je tords les situations, et dans le cinéma fantastique, on tord le cou des gens. Moi, aujourd'hui, je suis un peu moins absurde. Par exemple, le dernier film que je sors, la Low Cost, n'est pas un film absurde en soi, mais par contre, c'est vrai que j'essaye de peindre des personnages qui ont tous une forme de folie, un grain particulier, ce qui fait que le tout donne un film assez dingue, mais pas absurde, juste dingue.
Puisque vous parliez de Low Cost, vous pouvez me faire un petit pitch, disons, nous mettre un peu l'eau à la bouche.
Alors en fait, c'est l'histoire de passagers qui sont bloqués sur un tarmac d'un aéroport à Djerba, plus précisément, qui sont bloqués depuis 7-8 heures dans un avion, situation qu'on connaît quand même aujourd'hui souvent. La révolte explose au sein de cet avion et ils se rendent compte que parmi les passagers, il y a un pilote à la retraite, fraîchement, un ancien pilote de Air France, et qui est joué par Gérard Darmon. Et là, ils décident de dégager l'équipage en place, de mettre ce pilote à la place dans le cockpit et donc de décoller par leurs propres moyens, de rentrer en France par leurs propres moyens. Et évidemment, il va leur arriver quelques bricoles. Dans cet avion, je dirais que le Che Guevara de la révolte, c'est Jean-Paul Rouve, et l'hôtesse de l'air est jouée par Judith Godrèche. Donc que des gens que je connais assez bien, ma foi. Et on a fait une comédie très très enlevée, très rythmée.
Godrèche dans votre film Low Cost, et vous dans le film de Godrèche, toutes les filles pleurent.
Voilà, ouais, c'est vrai qu'on a un petit peu averti. Ouais, c'est vrai que moi j'y suis allé un peu à reculons sur son film parce que j'avais pas trop envie de jouer, vu qu'aujourd'hui je me plais à réaliser. Mais en même temps, je dois avouer que c'était très agréable parce que c'est une personne qui sait parfaitement ce qu'elle veut et elle m'a très bien dirigé. Et puis finalement, je me suis rendu compte que quand on est acteur, on ne fait rien sur un plateau. Et finalement, c'est assez agréable, contrairement au réalisateur qui devient dingue tellement on lui pose des questions toutes les deux secondes. Et c'est un grand luxe d'être acteur.
Un grand luxe d'être acteur, pas tout à fait sûr quand on écoute l'expérience qu'a fait l'ami Nicolas Cazalet quelque part dans les Antilles.
Interpréter et réinventer un personnage d'après un peuple qui a totalement disparu n'était effectivement pas une tâche facile, marcher pieds nus dans le sable chaud de Sainte-Lucie, d'après des recherches anthropologiques faites par le comédien lui-même.
Robinson Crusoé, dans lequel on trouvait dans le rôle de Robinson un Pierre Richard hirsute et barbu, mais surtout un Nicolas Cazalet à demi nu. Et le sauvage n'est pas toujours celui qu'on croit.
Si j'ai accepté aussi de faire partie de l'aventure de ce festival, c'est parce que c'était un monde cinématographique que je connaissais pas vraiment. Je suis pas tout à fait un amateur, mais j'avais une vision plutôt tronquée des choses et je me suis dit, tiens, allons voir 10 films sur le thème, et en plus d'en parler avec Dario Argento, c'est quand même la grande classe. Et je profite de ça, je dois avouer.
Et alors, pour le moment, vous avez vu déjà quelques films de la sélection, agréablement surpris ?
Oui, je peux vous dire qu'il va avoir le Grand Prix. Non, c'est pas vrai. Non, no scoop. Non. Donc c'était quoi la question, pardon ?
Vous alliez nous dire que c'était Mirage qui allait avoir le Grand Prix.
Alors, concernant le téléfilm Robinson Crusoe avec Pierre Richard, comment vous avez fait pour vous mettre dans la peau de Vendredi, qui est, je crois, la seule interprétation d'un indien caraïbe, Arawak, sur son île ?
Oui, ça a été une longue préparation. Ça a été assez laborieux, je dois l'avouer, parce que tu commences à lire le scénario et tu tombes sur des dialogues entre Robinson et Vendredi. Et donc, tu as la ligne de Robinson et puis dessous, Vendredi, qui dit... langage incompréhensible en indien. Moi j'avais ça, hein, c'était ça le scénario. Je dis waouh. Donc c'était. Il a fallu que j'imagine un langage. Ça a été assez complexe. Et quand on part comme ça dans le brouillard, la première semaine de tournage, elle est terrible. Parce qu'on se pose 1000 questions. Et puis au bout d'un moment, on arrête de se poser les questions et puis on continue sur le chemin qu'on s'est tracé, mais sans jamais savoir finalement si on est crédible ou pas. Quoi. C'est quand même très très loin de faire le rôle d'un indien d'Amazonie, c'était balèze quoi. Il a fallu que je prenne du muscle, il a fallu que je bronze beaucoup et ça c'était pas le plus compliqué et puis il y a une façon de marcher, de se mouvoir, donc j'ai regardé des tas de films anthropologiques tournés dans les années 20 par des explorateurs inconscients là-bas en Amazonie. Et bon, ça m'a ouvert des portes sur un univers que je connaissais pas du tout, passionnant.
Et vos projets cinématographiques à venir, qu'en est-il ?
Au mois de mars, à Lisbonne, tourner le prochain film de Christine Laurent. Et ensuite, je dois réaliser mon deuxième court-métrage. Et ça s'appelle Le Temps d'après, avec Daniel Duval. J'ai appris hier que le film a été sélectionné par la Semaine de la Critique. Parmi les meilleurs films 2010, les meilleurs courts-métrages 2010, donc je suis très heureux.
Et moi aussi, j'ai été très heureuse de vous rencontrer, cher Nicolas.
Le magazine du samedi, le samedi à 9h30 sur Cocktail FM, la radio des Hauts-de-Vosges.
Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be watching through windows. You're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time.
Événement majeur dans ce festival du film fantastique 18e du nom à Gérardmer, c'est un film hors compétition. Un film made in Lorraine avec un casting américain et un budget américain. Incroyable, c'est même une première rencontre avec Chris Bryant, ou Chris Briand en français, le réalisateur d'une jolie partie de chasse, The Hunters en anglais, et qui sera un peu le clou du festival puisque c'est le film de clôture.
Ça parle surtout de gens qui ont des gros problèmes, qui ont des problèmes personnels à régler et qui trouvent leur un échappatoire dans le fait de se regrouper les week-ends entre eux, entre hommes, loin des problèmes du bruit, de la ville, pour pratiquer une activité masculine qui est la chasse. Le film s'intéresse d'abord au quotidien de ces cinq personnages que l'on suit à travers leurs dernières semaines, parce que c'est à travers un compte à rebours dans une histoire qui d'abord dans une dernière semaine puis un dernier jour, leurs problèmes, leur quotidien, leurs rêves auxquels ils n'arrivent pas à accéder. Le dernier jour, les voit se réunir dans un endroit où on n'aurait pas suspecté les voir se réunir, qui est le Fort Gubbon, où la réalité prend une toute autre tournure. Leur quotidien s'effondre et tourne au cauchemar. Le Fort Gubbon, qui est le fort de Queuleux où on a tourné, qui est le fort qui est à proximité de Metz, et qui est un fort en fait qui est extraordinaire parce qu'en fait il y a une forêt qui dissimule des baraquements gigantesques, des douves, des constructions immenses que personne ne suspecte puisque c'est caché par les arbres. Donc c'est un endroit idéal pour faire commencer une histoire à suspense. Quoi.
C'est un film américain que vous nous amenez là.
C'est un film français tourné à la manière d'un film américain. C'est-à-dire que nous avons profité des décors que nous offre la région Lorraine, la ville de Metz, parce qu'il y a quand même des décors en Lorraine qui sont extraordinaires, qui n'ont jamais été exploités au cinéma jusqu'à présent. Donc on s'est dit que c'était des décors qui étaient dommage de ne pas exploiter dans le cas d'une histoire de thriller. Hein. Et pour que ce thriller soit accessible au plus grand nombre, il fallait l'ouvrir à des acteurs internationaux, faire un projet international qui puisse être projeté dans un plus grand nombre de pays. Je suis médecin d'origine, j'ai vécu à Metz jusqu'à l'âge de 19 ans, après je suis parti à Paris pour faire mes études, des études de cinéma, d'art dramatique, et après je suis revenu en Lorraine parce que je savais que je voulais créer ce projet, je voulais faire ce premier long métrage et créer cette société de production que nous avons créée en 2006.
Vous avez réuni des financements en partant quasiment ex nihilo, comment vous avez fait?
C'est une question de culture et de goût. Moi j'ai toujours été fan de films de genre, de séries télé américaines, etc. On a tous grandi avec ça. Et il est évident que quand on fait un premier long métrage, on se dit, avec qui j'ai envie de travailler, avec qui j'ai envie de créer un univers artistique, un film. Et tout naturellement, on vient à contacter des gens qu'on a vus depuis longtemps à l'écran. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Et tout naturellement, le reste suit, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs, la musique, l'image, la photographie, c'est très important pour un film. Si on a envie qu'un film ait une dimension qui dépasse l'aspect amateur, l'aspect vidéo, etc., on va chercher des pros, quoi. Des pros qui savent faire ça. Qui est-ce qui sait faire le film de genre le mieux? Ce sont en général les Américains. Ils savent le raconter, ils savent le monter, ils savent le percevoir. Parce qu'il a fallu les convaincre, parce qu'il a fallu fabriquer beaucoup de matériel de promotion pour qu'ils puissent monter à bord, qu'on puisse se crédibiliser, parce que c'était un premier long métrage. C'était en fait une sorte de boule de neige, quoi, hein, qu'on a dû constituer.
Alors, la taille de la boule de neige, financièrement, à l'arrivée, c'est quoi?
On est à peu près sur un budget de 2,5 millions d'euros. Et qu'on a mis à peu près plus de deux ans et demi, trois ans à réunir. Hein. Ça a demandé des ressources de notre part pour trouver du financement et puis adapter le budget en fonction des nécessités d'un premier film. On sait qu'un premier film, en général, il y a très peu de jours de tournage. On n'a pas le droit à se vautrer. Quoi. Donc nous, on a été sur 32 jours de tournage, ce qui est très très peu. Très très peu. C'est un marathon.
Dans ce marathon, donc, vous avez entraîné, vous venez le souligner, donc un casting américain, des gens que vous aviez envie d'avoir. On peut peut-être un petit peu les dénoncer, ces petits camarades-là.
Alors, et d'ailleurs, ils sont tous là, ils sont tous derrière le mur là-haut. Ils sont tous venus pour l'occasion, parce que dimanche, c'est quand même notre grande première hein, pour The Hunters. On a tourné le film il y a un an. Aujourd'hui, on le présente en clôture à Gérardmer. Et on a réussi à tous les faire revenir pour l'occasion. Il y a Stephen Waddington qui est revenu d'Angleterre spécialement, qu'on a pu voir dans Le Dernier des Mohicans, dans Sleepy Hollow, et dans des films qui sont très très connus. On a Terence Knox et Tony Baker qui ont fait partie d'une série télé américaine qui était très très connue, très renommée dans les années 80, qui s'appelait L'Enfer du Devoir. Nous avons deux autres acteurs. Il y a un acteur lorrain, parce qu'on a tenu à faire participer des Lorrains aussi dans ce film. Des gens que je connaissais plus longtemps, que j'aurais dit, ok, venez, il y a une occasion, il y a un vrai rôle, venez, c'est l'occasion de faire quelque chose. Donc Mark Snow aurait dû venir, le compositeur du film, Malheureusement, il est pris. Voilà. Mark Snow, le compositeur de X-Files, entre autres, de Millennium.
Alors, on a oublié de citer quand même l'acteur Laurent.
Chris Bryant.
Vous mettez en scène et vous mettez en scène.
C'est quelque chose que je, comment dire, que j'ai senti qu'il fallait que je fasse, parce qu'à un moment donné, il faut savoir se donner sa chance. J'espère quand même que notre cas sera un message d'espoir pour ceux qui ont envie de faire du cinéma. Et ceux qui ont un rêve de cinéma, hein, qui ont envie de le faire partager à des gens.
The Hunters, un film du messin Chris Bryant et un genre d'ovni dans l'univers du cinéma, de genre ou non, car c'est véritablement la première fois qu'on arrive à financer un film avec des fonds privés américains et à créer un pont puisque le tournage a eu lieu en France, en Lorraine, avec des acteurs américains et en langue anglaise, de sorte à pouvoir l'exporter à l'international, ainsi que Chris Bryant l'expliquait à l'instant.
Une première également avec la projection de The Hunters à la cérémonie du palmarès à l'Espace Lac sur invitation, dimanche à 19h. Séance de rattrapage tout public à 22h30 au cinéma du Casino.
C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour un prochain numéro du magazine de la rédaction qui sera encore une fois consacré à l'univers du fantastique, mais cette fois nous nous intéresserons aussi à la littérature. On apprendra entre autres de la part d'Henri Lovenbruck à quoi sert la touche Shift sur un clavier, Shift comme le titre de son dernier roman. Rencontre également avec Bernard Werber. Et puis nous parlerons également de schizophrénie, de paranoïa et de claustrophobie.
Et cette fois, il ne s'agira pas de cinéma, ce sera du sérieux avec l'intervention de Samuel Lepastier, psychiatre et psychanalyste. Nous demanderons également si tout peut être montré à l'écran.
Fin de ce magazine du samedi, toute la rédaction de Cocktail FM vous souhaite un très très bon week-end. A très bientôt Émilie.
A très bientôt Jean-Christophe. Et au revoir à toutes et à tous.
Dans quelques instants, les informations nationales et internationales.